Marco Drépin Show. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Ce matin, on reprend un rendez-vous qu'on avait un peu délaissé dans les dernières semaines. On n'était plus aussi assidus sur le moment où on lui parlait. Guillaume Duluth, qui est docteur en neuropsychologie. Guillaume, bon matin.
Bon matin, les amis. Content d'être là.
Aujourd'hui, tu nous proposes de parler de la possible fin des relations interpersonnelles due au développement des médias sociaux et du monde virtuel. Ce que tu me disais, c'est que la génération Z n'est pas intéressée par les relations. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce sujet-là, premièrement?
Ben, ça fait une vingtaine d'années que je suis principalement dédié à la psychologie des communications. J'essaie d'aider les gens à créer des relations, résoudre des conflits, lire le non-verbal et tout ça. Puis, et ce sont des habiletés qui doivent se développer parce que le cerveau, c'est énorme, c'est très puissant et on peut pas directement lire dans la tête d'une autre personne. Donc, tout ce qu'on a, c'est une lecture de la communication. Et on a remarqué dernièrement, au cours des dernières années, que les relations se sont dégradées entre les gens et les habiletés de communication sont de moins en moins mises de l'avant et on constate des statistiques absolument désastreuses qui sont, selon moi, incontournables. C'est-à-dire que particulièrement pour la plus jeune génération, génération Z, donc des personnes qui ont 30 ans et moins, qui sont nées en 1995 et après, ben on remarque des courbes et des données qui sont vraiment... Sont durs à regarder, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt.
Ça ressemble à quoi les données, si tu as des chiffres? Je suis curieuse quand même, parce que je pense qu'on le remarque autour de nous, là, on n'arrête pas de le dire qu'au niveau de nos skills sociaux, ça roche dans les dernières années. Puis au début, on a mis ça, on dirait un peu sa pandémie. Ah ben tu sais, le monde se sont moins vus. Ah ben tu sais, les enfants qui sont nés pendant la pandémie, ils ont moins ce contact social-là facile. T'sais, on dirait qu'on la pandémie a eu le dos large, là. Mais c'est-tu juste dû à ça ou il y a plus? Je suis curieuse d'avoir un peu tes stats.
C'est vraiment un bon point. La pandémie a, je dirais, rehaussé quelque chose qui était déjà là. Donc, c'est vraiment pertinent, je pense, de parler de la pandémie parce qu'elle a mis un emphase encore plus sur l'échappatoire qui est de la technologie et l'isolement. Et on a comme perdu, dans des moments critiques de la vie, si tu veux, la capacité de pratiquer les interactions sociales. Parce que, les interactions sociales, il faut les pratiquer. C'est comme un sport. Si tu pratiques pas ça, tu le perds. Et si tu le perds, ton cerveau va vouloir se réfugier dans d'autres choses et ça va être le monde virtuel. Donc, pour revenir à tes statistiques, OK, c'est intéressant parce que on dit, OK, est-ce qu'il y a des statistiques qui disent, les jeunes ou une certaine portion de la population communiquent moins bien? Ça sera pas écrit comme ça. Ça va être écrit sur quels sont les symptômes qui seraient reliés à des déficits en termes de relations sociales. Alors, détresse psychologique est extrêmement élevée et marquée pour la génération Z. Si tu compares des générations les unes avec les autres, la génération Z est plus anxieuse, elle est plus dépressive, plus de troubles psychologiques et de détresse psychologique au sens large. Fait que déjà, on a des données qui montrent que cette génération-là souffre plus et différemment de toutes les autres générations. Mais là, on dit, OK, mais c'est quoi le lien avec la communication? Alors là, excuse-moi, je suis un petit peu en feu ce matin. Interromps-moi. Là, si
ben non, vas-y, au contraire, je te trouve super intéressant. t'es là.
Donc, c'est ça. Donc, tu as de la détresse et là, on fait comme, OK, bon, ben c'est dû à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on regarde d'autres courbes. Des courbes, par exemple, faites par des chercheurs comme Jean Twenge, qui est une des sommités là, dans l'analyse des facteurs générationnels. Donc, cet auteur-là, puis je recommande aux gens qui écoutent de se renseigner sur Jean Twenge, elle a montré beaucoup, beaucoup de courbes qui comparent des tendances, des attitudes que les jeunes avant 1980, par exemple, puis on regarde qu'est-ce qui se passe avec les jeunes maintenant en 2004, 2015, 2020, et ce qu'on voit, c'est que les courbes sont descendantes sur tout ce qui est intérêt pour des activités qui concernent d'autres personnes dans des lieux physiques. Donc, en gros, pour rendre ça clair, les jeunes ne sont pas intéressés à aller faire des parties. Les jeunes ne sont pas intéressés à aller dans des rencontres amoureuses, ne sont pas intéressés à avoir des relations sexuelles. Il y a près de 60 % des jeunes hommes de 30 ans et moins qui soit n'ont jamais eu de relations intimes et ou n'ont pas l'intention d'en développer. Donc, Ça, c'est quelques chiffres comme ça qui sont absolument traumatisants. Parce que ça veut dire qu'on fait tranquillement le sacrifice que les relations sociales, c'est important et que ça devrait
Oui.
être partie de notre vie. Donc,
Mais
on n'est plus dans ça en ce
pourquoi
moment.
ils n'ont pas l'intérêt, Guillaume? C'est-tu parce qu'il y a une facilité d'aller chercher certains, je veux dire, certaines réactions ailleurs? Parce que là, je te parlerais bien de pornographie, mais j'imagine que c'est pas mal plus grand que
Oui.
ça, là, parce que normalement, la pornographie nous donne l'intérêt d'aller chercher des relations humaines. Fait qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas le besoin d'avoir ben, un besoin humain, finalement?
Excellente question. Alors, il y a d'autres auteurs qui se sont concentrés plus sur l'aspect, je dirais, technologique purement de cette génération-là. Et pour reprendre un peu les éléments que tu amènes, effectivement, on se rend compte que les interactions sociales, c'est du travail, c'est stressant, c'est difficile. Oh, wow, OK. Donc, si, mettons, tu offres un choix, une personne que ça les stresse déjà, les relations sociales, sont déjà plus anxieux que les autres générations, ils sentent qu'ils ont moins de pouvoir dans leurs relations interpersonnelles, et tu leur donnes un échappatoire qui est Internet, les médias sociaux, c'est comme si tu donnes une drogue à une personne qui va pas bien. C'est sûr que tu lui mets une drogue dans la face et elle va avoir l'opportunité de se satisfaire à court terme avec ça. Donc, les hommes, les jeunes garçons vont aller plus vers la pornographie et les jeux vidéo. C'est tout à fait vrai. Et les jeunes femmes vont aller plus vers médias sociaux parce que les jeunes femmes sont plus sociales. La comparaison sociale est plus là. L'image corporelle, c'est beaucoup plus féminin que masculin. Donc, sur Internet, on a toutes sortes de drogues spécialisées pour éviter la réalité, dépendamment de ton profil psychologique ou de ton sexe ou ton genre. Mais le problème, c'est que ça ne donne pas le goût d'embarquer dans la réalité parce que la réalité, tu as très peu de dopamine, ça prend beaucoup d'habileté, c'est très difficile. Donc, ça fait des gens qui sont complètement happés par Internet, par tout le monde virtuel, et les jeunes ne sont pas, sont plus intéressés à retourner dans le monde réel.
Tu parles de drogue, Guillaume, c'est intéressant parce que, puis j'en parlais avec Audrey, puis je lui ai parlé en ondes récemment, là, j'avais supprimé Tinder pendant quelques semaines et
Oui.
je me rendais compte que, tabarouette, je pense que c'est positif pour moi, je suis moins stressé, là, tout le temps, t'as-tu eu un match, puis là, oh, elle me répond pas, puis là, oh, yes, elle me répond, oh, elle me répond plus, puis tu deviens quasiment obsédé par ça, aussitôt que t'as un nouveau match, alors qu'on, t'sais, on s'en fout, puis... Des derniers mois, j'avais Tinder, puis j'avais des matchs, je voyais jamais les filles, tu sais, puis on dirait que, ben tabarouette, je l'ai remis en fin de semaine, samedi, j'ai cédé à la pression, j'ai
Arrête.
reconsommé la drogue Tinder, mais je me le mettre juste, c'est passé à Saint-Valentin, m'a swipé un peu, mais là, j'y ai regoûté, puis j'ai plus le goût de leur enlever. Les réseaux de
Oui.
rencontres, ça vient directement entrer dans le problème dont tu nous parles aujourd'hui.
Mais complètement. Et là pour tous ceux qui écoutent, le but, c'est pas de dire qu'on est contre la technologie. C'est pas ça. C'est trop puissant pour ce qu'on avait anticipé et on n'est pas équipé à manipuler sur une base quotidienne cette sorte de technologie-là. Je compare ça avec l'énergie nucléaire. C'est super, l'énergie nucléaire, c'est renouvelable, c'est puissant, mais faut que tu saches quoi faire avec ça. Si on ne sait pas comment gérer une force comme ça, la conséquence, ça va être la destruction de l'environnement, la contamination. Donc, pour n'importe quelle technologie qui est puissante, il faut savoir comment l'opérer. Et en ce moment, on ne sait pas comment l'opérer. Et là, depuis quelques années, les statistiques ressortent. Et moi, mon travail, c'est de sonner une grosse l'alerte, si je peux dire, pour dire attention, il faut faire attention à ça, mais il faut faire attention sur la construction d'habileté qui nous permet de rester dans le monde réel.
J'ai envie de t'amener sur l'empathie, Guillaume, parce que quand on parle de manque d'habileté sociale, moi, une chose qui me fascine, c'est à quel point, justement, on gère mal les émotions de l'autre. On ne sait pas comment agir avec l'autre au niveau de la communication. Fait que je sens même des relations amoureuses là-dedans. Le
Oui.
cerveau de la génération Z, qui est atteint par les statistiques dont tu nous parles, est-ce qu'il est en train de se reconfigurer? C'est-à-dire, comment je te dirais ça? Est-ce que le cerveau de la génération Z est en train de reconfigurer ses zones dédiées à l'empathie, mettons, à force de privilégier, mettons, le texto à la voix. Comprends-tu ce que je veux dire? À force de privilégier les interactions virtuelles au lieu de face à face.
Alors, la réponse, c'est absolument oui. Okay? Si tu, mettons, tu mets un humain, peu importe un adulte ou un enfant, mais évidemment, encore plus si c'est un enfant ou un adolescent, alors que son cerveau est en pleine construction, si tu le mets dans un contexte où il va être fortement influencé par des facteurs externes, des facteurs dopaminergiques, tu vas avoir une nouvelle configuration du cerveau, c'est sûr à 100%. Parce que pour produire les émotions de détresse, pour produire les comportements d'évitement, ça prend un cerveau qui crée ces comportements-là, ces réactions-là. Donc, absolument, ça crée un impact sur des dispositions cérébrales, de la connexion neuronale, dendritique, neuroplasticité, bon, peu importe comment on appelle ça. Donc, oui, absolument. Maintenant, pour revenir à ta question d'empathie, c'est compliqué cette question-là. Parce que l'empathie, aujourd'hui, c'est mal défini et on pense que l'empathie, c'est la solution de tout. C'est-à-dire, si j'accepte n'importe quelle émotion des autres, ça va bien aller socialement. C'est pas tout à fait ça. L'empathie, c'est une habileté parmi plein d'habiletés qu'il faut avoir dans nos communications. Et si on n'a pas assez d'outils en communication, ben, un des risques, c'est qu'on va surutiliser l'empathie. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de faire notre place dans le monde. On n'est pas capable de s'affirmer. On n'est pas capable d'endurer des conflits, des oppositions. Donc, l'empathie, c'est un excellent point que tu amènes là. C'est parce qu'il faut reclarifier qu'est-ce que c'est l'empathie et comment on s'en sert?
Mettons que j'essaie de voir le verre à moitié plein ou du moins d'apporter un petit peu de positif ou d'optimisme. Oui. Là, tu nous en parlais des conséquences qui sont terribles. On parlait de détresse, entre autres, psychologique chez les jeunes. On parlait aussi de modification du cerveau dans les dernières secondes. Est-ce que ça se peut, mettons dans un monde idéal qui serait bien le fun, que, bon, en ce moment, c'est négatif, mais notre cerveau va s'adapter à cette nouvelle réalité-là, puis ça sera pas autant un problème dans le futur où on est déjà un peu dans la merde.
C'est un très bon point. Bon, premièrement, l'aspect positif, on va commencer avec ça. L'aspect positif, c'est que le cerveau, c'est puissant et si tu lui montres des nouvelles choses avec les bonnes stratégies, avec suffisamment de constance puis de pratique, il va refaire des nouvelles connexions, il va réapprendre à faire des nouvelles choses et c'est le concept même de l'apprentissage. Mais il faut comprendre que l'apprentissage doit être à la hauteur de la puissance de drogue auquel on s'expose à tous les jours. Donc, c'est comme si tu me dis, oui, mais si je prends de la coke à tous les jours, mon cerveau va s'habituer puis je vais m'en sortir. Non, c'est trop fort de la coke. C'est trop fort de l'héroïne. Donc, ça veut dire qu'il faut que soit éliminer la consommation et en contrepartie, apprendre des nouvelles habiletés, là, je te dirais, ça, c'est faisable. Mais juste le système d'habituation, c'est beaucoup trop fort pour qu'on puisse en sortir de nous-mêmes. Ça va prendre des interventions et des mobilisations claires de notre part.
Guillaume, pour des gens comme nous, je vais dire, parce que je pense que je me joins à toi sur l'importance de la communication humaine et des habiletés sociales, j'ai le sentiment que on regarde ça puis ça fait peur parce qu'on n'aime pas que l'humain, justement, se déshumanise. Oui. Ceci dit, des fois, je parle avec des collègues, avec mon entourage, puis les réponses que j'ai, c'est « Ben oui, Maudrey, on s'en va là, c'est tout. » Un peu comme Max disait, « On va s'habituer, c'est ça le futur. La vie sera plus pareille, mais c'est ça puis c'est tout. » Je te prends l'exemple. Tantôt, on parlait de pornographie de façon assez superficielle. J'ai mon collègue avec qui je travaille l'après-midi qui dit « Ben oui, Maudrey, si on est rendu à un point où la technologie nous permet de sentir et de voir et de pouvoir faire dans le virtuel ce dont on a envie sans déranger un humain, ben regarde, on est rendu là, puis c'est tout, puis tant mieux. C'est une bonne chose. Ça va peut-être sortir des gens de la solitude, puis peut-être que les gens vont se sentir moins en détresse psychologique. » Ceci dit, à mon sens, t'as quand même pas le côté humain à ce moment-là. Ma question est, en quoi c'est négatif si on pousse ça à l'extrême? Si on s'en va là, puis si on n'a plus besoin de ces contacts humains-là, c'est-tu correct?
Ah, mais tu vois, c'est des questions comme ça dont il faut parler plus, un. Et deux, les données sont déjà claires et sont absolument irréversibles. Alors, les données en général, c'est plus tu passes du temps sur une interface virtuelle sur Internet, sur réseaux sociaux, jeux vidéo, tout ce qui est devant un écran est corrélé à une augmentation de la détresse, sentiment de solitude, isolement et le sentiment, comme le disent les études, d'être, entre guillemets, malheureux. Donc, Si on me dit, ah, mais c'est pas grave d'être malheureux, ah, ben, si c'est pas grave pour toi d'être malheureux puis d'être suicidaire, je te dirais, ben, let's go. Mais je pense pas. Je pense qu'on s'en va vers un gouffre absolu. Il faut absolument gérer tout ce qui est écran technologique, d'une part, mais ce ne sera même pas suffisant. Il faut rééquiper les gens à vouloir être en interaction sociale, parce que les interactions sociales, c'est du sport, c'est difficile. Mais je suis en total désaccord que, oui, mais peut-être que c'est le futur, peut-être que si, peut-être que ça. C'est comme si tu me dis, oui, mais là, la cigarette est arrivée dans notre société. Ah, oh, ça fait partie de la technologie, peut-être faut laisser ça aller. Ben oui, si ça ne te dérange pas de mourir du cancer du poumon, OK, mais ça nous dérange parce que c'est pas ça que tu veux vivre.
J'aime ton
Donc, ça,
parallèle.
là, c'est pas vrai, ça. OK, c'est une déresponsabilisation. Il faut garder le contrôle sur les choses qu'on crée.
OK, je me fais l'avocate du diable, OK? Parce que le
Oui.
temps avance vite. Tu me dis ça, pour avoir déjà eu ces conversations-là, ce qu'on m'a répondu, c'est, ben oui, mais Audrey, pense aux gens seuls, mettons, qui ont un lourd handicap ou qui sont pas, là, je vais être cru, je m'excuse, mais qui seront pas, ils n'ont pas gagné à la loterie de la génétique, là, visuelle, mettons, là. Puis eux autres sont seuls depuis longtemps, ils n'ont pas de relation, ils n'arrivent pas à être en couple, ils n'ont pas de relation sexuelle, ils ont. Puis la technologie, c'est ce qu'il y a de mieux pour eux autres qui leur est arrivé dans vie parce que ça fait en sorte que le cerveau dégage de la dopamine, puis de la sérotonine, puis toutes ces bébelles-là, là, d'hormones du bonheur et compagnie. Fait que c'est positif dans le fond. Tu réponds quoi à ça?
Ben, c'est très facile à répondre. C'est que ça, c'est un exemple typique pour défendre quelque chose de façon irrationnelle. C'est-à-dire, tu prends une portion de la population qui est une minorité et tu essaies d'appliquer une règle générale à la population basée sur une minorité avec des traits extrêmement spécifiques. C'est comme si tu me dis, ben, c'est bon une chaise roulante. C'est comme, je sais pas quoi dire, c'est bon une chaise roulante. Ça dépend. C'est ce qui, à qui? Pourquoi? C'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu veux faire? Parle-moi. Je comprends, c'est imbécile, ça. C'est une pensée d'imbécile, c'est-à-dire, on va prendre un objet, puis on va essayer de lui donner une connotation. Ça passe, c'est un outil, ça. C'est comme si tu me dis, un tournevis, t'aimes-tu ça? Ben oui, tu peux poignarder quelqu'un avec ça aussi, ou tu peux construire quelque chose. C'est un outil, ça. OK? Donc, les médias sociaux, c'est un outil qui peuvent être favorables. Regarde en ce moment, on profite de la technologie. Là, je ne suis pas à côté de vous là, directement. C'est super ça. Alors, on va remercier la technologie pour ça, mais c'est parce qu'on a un plan, puis on sait comment l'utiliser. Donc, il y a des personnes, si c'est bien utilisé, que ça va aider certaines choses, mais c'est comme n'importe quelle béquille, outil, stratégie. Tout est une question de plan, d'intervention, puis de stratégie.
J'ai envie de te demander, parce que encore une fois, le temps file, puis je veux vraiment qu'on est là. On peut faire quoi si on se sent interpellé par ce que tu décris? Définitivement, on est des gens qui communiquent bien, mais il y a du monde qui nous écoute qui peut-être sont pas à l'aise socialement, ont pas ces habiletés-là sociales.
Alors, je peux en avoir besoin aussi, je te dirais. On n'est pas obligé d'aller chercher les auditeurs, là.
Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être? Par où on commence? Parce que je veux dire, c'est facile à dire quand tu l'as naturel, là.
Mais je te dirais même, là, il n'y a personne qui l'a naturel maintenant, aujourd'hui. Tu as certaines propensions reliées aux traits de personnalité. Les personnes plus extraverties, avec moins d'émotions négatives, ont plus tendance à avoir ça. Un petit peu plus facile, mais ça ne te montre pas des habiletés qui sont nécessaires aujourd'hui. Aujourd'hui, 2026, ça prend une autre gamme d'habiletés pour se débrouiller socialement. On est dans une phase qui est beaucoup plus difficile socialement. Il faut être armé pour ça. Donc, la première chose, bonne nouvelle, ça s'apprend. Deux, s'il y en a qui trouvent que c'est difficile puis qu'ils veulent changer les choses, ben ça prend un peu de courage pour dire, OK, est-ce que vous êtes vraiment déterminé à changer des choses? Si oui, ça se fait. Puis trois, ben très humblement, je vais permettre et je vais me permettre de vous dire que je fais beaucoup de live prochainement, comme le 19 février prochain, gratuit sur quoi faire, comment améliorer ses habiletés de communication. Donc, 19 février prochain, 20 h, heure de Montréal, puis je vais en faire d'autres. Donc, je pense qu'il faut comme retrouver espoir que les relations sont importantes, ça s'apprend, c'est comme un sport, et on n'a pas à se laisser happer par cet abysse-là de monde virtuel, puis rester dans notre malheur de façon isolée. Moi, j'encourage les gens à voir ça différemment, puis avancer.
Guillaume, garde cette fougue-là. Je la trouve contagieuse.
Acheter en forme aujourd'hui, là. Je suis plus en
Ça
forme.
paraît, ça paraît. Merci beaucoup, hein, Guillaume.
OK, à bientôt les amis.
Guillaume Dulude, docteur en neuropsychologie. Toujours le fun, puis on regardera pour reprendre cette petite habitude-là du lundi.
Eh hey, oui, ça pourrait être vraiment le fun.
Merci beaucoup, Audrey.
Salut.
Au retour, on se tape en direct le commissaire Galland qui rend ses recommandations concernant le fiasco Saclic. On va écouter ça le temps que c'est le fun et pertinent et intéressant. Puis quand ça deviendra plate, ben on recommencera à avoir du fun.